Vous écoutez, on lit pour vous.
30 ans plus tard, des femmes de la Marche du pain et des roses tournées vers l'avenir. Un texte de Léo Mercier-Ross paru le 26 mai 2025 dans Le Devoir. Le 26 mai 1995, des centaines de femmes du Québec entamaient une grande marche qui les mena, après 10 jours, à l'Assemblée nationale, où Jacques Parizeau, premier ministre de la province à l'époque, répondit en tout ou en partie à leurs revendications. Ces marcheuses militaient, entre autres, pour la mise en place d'une loi pour l'équité salariale, l'augmentation du salaire minimum et la création de logements sociaux. 30 ans plus tard, ces revendications résonnent encore dans l'espace public, et les femmes à l'origine de la marche soutiennent l'importance de se souvenir du mouvement tout en regardant vers l'avenir. La marche du pain et des roses, ça a été une magnifique étape avec des gains de toutes sortes, mais il ne faut pas s'imaginer 30 ans plus tard que le combat est terminé, résume Françoise David, qui est à l'origine du mouvement. Jointe au téléphone, celle qui était à l'époque présidente de la Fédération des femmes du Québec, FFQ, dit observer une période difficile en citant la guerre à Gaza, la guerre commerciale avec les États-Unis, ou bien un ressac encouragé, faut-il le dire, par la montée de l'extrême droite dans plusieurs pays du monde. Le tout, sans oublier la violence envers les femmes, malgré des progrès. Madame David se sent obligée de dire quand même qu'il y a eu 25 féminicides au Québec en 2024. Je suis de celles qui disent que, depuis 40 ou 50 ans, on a vraiment progressé, mais en même temps, on continue de faire face à des obstacles difficiles. Pour Sylvie Saint-Amand, actuelle présidente de la FFQ, il est important de se souvenir du moment d'éveil que fut du pain et des roses pour le féminisme au Québec, ainsi que des avancées obtenues, mais il faut aussi laisser la place à l'évolution. La militance prend différentes formes, et je pense que cette forme-là, une grande marche, elle est un peu révolue. C'est important de se le garder en mémoire, mais après 30 ans, il va falloir réfléchir à d'autres choses, soutient-elle en entrevue. Nouvelle génération. Toutefois, ce n'est pas à celles qui ont mené la marche en 1995 de décider quelle forme prendra ce renouvellement. Il faut aussi laisser la place aux jeunes. Il va falloir qu'on aille voir aussi qu'est-ce qu'elles ont envie de célébrer et de commémorer, ajoute Mme Saint-Amand. Un avis partagé par Françoise David, qui observe que, de nos jours, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux que les mouvements s'organisent. Pour ce faire, Du pain et des roses assure son avenir en jumelant les marraines, qui s'occupaient en 1995 de mobiliser les femmes, à des co-marraines, des femmes plus jeunes qui, à terme, militeront à leur manière. Marjorie Villefranche, marraine en 1995 et aujourd'hui, pense que de nos jours, les marraines doivent être des personnes qui utilisent leur savoir pour dire « attention ». On a obtenu des choses, mais il faut faire attention pour les maintenir, pour les garder, pour les préserver, affirme-t-elle. Celle qui, jusqu'à récemment, assurait la direction générale de la Maison d'Haïti, décrit la relation marraine-co-marraine comme étant du mentorat sur toute la question de la lutte des femmes. Les femmes qui sont d'une autre génération que la nôtre, peut-être qu'il y a des choses qu'elles ne savent pas, parce que pour elles, c'est acquis, poursuit-elle avant de se reprendre. Mais non, ce n'est pas de l'acquis, c'est du gagné. On l'a gagné, et il faut préserver ça très précieusement parce qu'on peut le perdre très vite. Pour Florence Agathe Dubé-Moreau, une commissaire indépendante en art contemporain, être co-marraine représente un honneur et un devoir d'histoire. On a tendance à l'oublier, mais la marche du pain et des roses, ça a impulsé la marche mondiale des femmes qui a eu lieu tous les 5 ans à travers le monde, explique-t-elle. Quant à dire comment elle compte militer à sa façon, Madame Dubé-Moreau souhaite avant tout que chacun, chacune s'approprie un petit peu de cette mission-là qui agit comme une main tendue pour amener plus d'égalité et d'équité. De beaux gains. Somme toute, il y a eu de beaux gains, rappelle Sylvie Saint-Amand en citant la loi sur l'équité salariale. Pour Marjorie Villefranche et Françoise David, c'est particulièrement la réduction et la rétroaction de 10 à 3 ans du temps de parrainage pour les femmes immigrantes qui vient à l'esprit. Je sais que pour la majorité des gens, c'est de l'inconnu, mais il y a des femmes immigrantes qui m'en parlent encore et qui me disent « Quelle victoire !» raconte Françoise David. Celle qui était porte-parole féminine de Québec solidaire jusqu'en 2017 souhaite aussi rappeler les gains faits en matière d'infrastructures sociales. L'économie, ça n'est pas qu'Hydro-Québec, les mines, les forêts, etc. Et malheureusement, ça aujourd'hui, je trouve que ça s'est perdu. Surtout dans un contexte de crise où Mme David aimerait beaucoup qu'on ramène dans le discours l'infrastructure sociale et donc tout ce qui s'appelle prendre soin des personnes. Alors, vous allez me dire que vous l'avez gagné sur le coup en 1995, mais on ne peut pas dire qu'on voit les effets maintenant, soutient l'ancienne députée. Souvenir. Outre les diverses avancées politiques, ce qui reste après 30 ans, ce sont des souvenirs. Et à propos de la marche du Pain des Roses, Marjorie Villefranche se souvient surtout que le mouvement a permis de démontrer la capacité des femmes de se mobiliser et d'obtenir des choses politiques. Pour sa part, Françoise David garde deux souvenirs proches d'elle. En premier lieu, d'être avec toutes ces femmes lors des jours où elle a marché et de voir l'espoir dans leurs yeux. « Ça m'habite depuis ce temps-là », témoigne-t-elle. L'autre souvenir, plus politique, survient le 4 juin 1995, lorsque Françoise David livre son discours peu après l'allocution de Jacques Parizeau, où il a répondu en partie aux demandes des militantes. En raison de quelques déceptions, notamment sur la question du salaire minimum, cette dernière avait le souci de s'assurer que toutes ces marcheuses rentreraient chez elles heureuses de ce qu'elles avaient accompli en se disant « Je n'ai pas fait ça pour rien ». Puis, c'est vrai qu'on ne l'avait pas fait pour rien. On avait quand même 9 revendications, puis on a avancé sur toutes les revendications en un coup. C'était, 30 ans plus tard, des femmes de la marche du Pain et des Roses tournées vers l'avenir. Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 28 mai 2025 dans Le Devoir.
À Berlin, le cellulaire n'est pas invité à la fête. Un texte d'Eliane Gosselin, paru le 1er juin 2025 dans La Presse. Berlin, 0h17. Entre deux immeubles d'un quartier industriel de l'Est, nous cherchons une adresse reçue sur l'application Telegram. 3e étage, suivez la musique, peut-on lire? On pousse la porte. Barre de fortune, chaîne audio impeccable, piste de danse envoûtante, nous plongeons dans la sous-culture de la techno-allemande, officiellement reconnue au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2024. Réflexe de journaliste et de jeune adulte, sortir notre téléphone, croquer des souvenirs de cette soirée qui s'annonce mémorable. Mais les images devront attendre, car dans la ville considérée comme la Mecque de la techno et du raving, une règle dicte les festivités. Pas de photos ni de vidéos. Dans certains endroits, le téléphone est carrément banni. Dans d'autres, un collant est apposé sur la caméra de l'appareil. Et c'est peut-être la clé du succès des fêtes berlinoises. La piste de danse comme endroit sûr. C'est vital pour faire la fête. Jamais on ne pourrait être aussi libre si on se savait filmer. Adossé au bar, Nick, prénom fictif, est catégorique. Sortir, ça se fait sans téléphone. Nous lui avons accordé l'anonymat, car le jeune homme a l'habitude de consommer et craint des représailles de son employeur. S'il est question d'usage de drogue, dans le cas de Nick, c'est d'abord pour protéger les communautés marginalisées que l'interdiction de captation d'images a vu le jour au tournant des années 1990. La communauté gay et les cultures fétichistes étaient, dès le début, l'un des pans cruciaux de la scène des clubs berlinois, explique l'historien de la musique Matthias Pasdierny, professeur à l'Université des Arts de Berlin. Cette scène a explosé au moment de la chute du mur. Les jeunes souhaitaient alors redéfinir la marque de la ville, dit le musicologue. La nouvelle génération a saisi l'occasion de raconter de nouvelles histoires sur Berlin, de danser dans les rues. L'heure était donc au rassemblement, et tout allait être mis en place pour permettre à l'Est et à l'Ouest de se réunifier au rythme de la musique EDM, Electronic Dance Music, qui voyait le jour au même moment. Jusqu'à ce que les téléphones intelligents viennent jouer les troubles fêtes. Le club Bergen a été l'un des premiers à mettre en place l'interdiction de photos, raconte Matthias Pasdierny. La boîte de nuit, temple mondial de la musique électronique, attire des amateurs de partout dans le monde, prêts à faire la queue souvent plusieurs heures, sans garantie de pouvoir y entrer. Les fêtards sont avertis. Leurs souvenirs, flous ou non, seront les seules images qu'ils garderont de leur soirée. À l'intérieur, sortir son appareil est synonyme d'expulsion. On remarque aujourd'hui que la consigne a joué en faveur du succès du mythique club. Il y a des milliers de photos identiques devant le Bergen. C'est un exemple, Matthias Pasdierny. En interdisant les images, le site est devenu plus mystérieux, attrayant. Mais tous les clubs, encore moins les petites entreprises, n'ont pas cette chance. Prendre exemple sur Berlin. À Montréal, la firme événementielle Soundcheck, qui a fermé il y a plus d'un an, a tenté d'instaurer la pratique. Son slogan? Disconnect to reconnect. Déconnecter pour reconnecter. On voulait empêcher les gens de prendre des photos pour qu'ils puissent être présents sur le dance floor, connectés avec les autres, explique le cofondateur Antoine Lévesque. Les participants recevaient donc un collant à mettre sur leur appareil à l'entrée du site. Mais à l'ère où la publicité se fait en grande partie sur les réseaux sociaux, le jeune entrepreneur est catégorique. Empêcher le public de prendre des photos a été difficile pour le marketing. Sans compter que les artistes comptent souvent sur les publications des participants pour gagner en visibilité, poursuit-il. Bien que Soundcheck ait cessé ses activités depuis, faute d'une assez grande profitabilité, Antoine Lévesque ne regrette pas d'avoir mis en place la pratique. L'entreprise a rempli plusieurs fois de grandes salles. Les plus jeunes changent la donne. Malgré le succès de la règle sans téléphone à Berlin, certaines boîtes pourraient être appelées à revoir leur politique afin d'attirer une nouvelle clientèle sur les réseaux sociaux, indique Matthias Pasdierny. Pour le musicologue, des jeunes de 17 ans qui s'intéressent à la culture techno, c'est génial. Il faut toutefois s'attendre à ce que cette nouvelle génération cherche à réécrire les codes, dit-il, et cela passera peut-être par le téléphone, même si laisser entrer le cellulaire pourrait venir compromettre le cœur même de la fête. Une des idées maîtresses du raving, c'est de créer une sorte d'espace externe qui soit totalement différent de ta vie de tous les jours, rappelle Mathias Pasdierny. Or, ton téléphone est un des outils les plus agaçants pour te garder connecté à cette vie de tous les jours. C'est encore plus vrai pour la nouvelle génération. Ce serait peut-être thérapeutique pour eux de passer quelques heures sans pouvoir prendre de photos, poursuit le père de 3 enfants, dont 2 adolescents. Ces propos font écho à ceux d'Antoine Lévesque, selon qui, une fois qu'on a goûté à l'expérience de la fête sans cellulaire, on ne veut plus retourner en arrière. Sur ce point, nous pouvons difficilement le contredire. Notre week-end à Berlin aura été des plus mémorables, même si nous en gardons très peu de traces sur notre téléphone. C'était « À Berlin, le cellulaire n'est pas invité à la fête », un texte d'Eliane Gosselin, paru le 1er juin 2025 dans la presse.
Stéphane Lafleur, tout ce que sa musique ne dit pas. Un texte de Catherine Genet, paru le 10 juin 2025 dans Les Libraires. L'auteur et interprète des chansons d'Avec pas de casque ajoute une corde à son arc. Après avoir tourné autour pendant longtemps, le voilà qui se risque enfin à la poésie. Son premier recueil s'intitule « Poudre à danser ». Stéphane Lafleur est un artiste complet, multifacette. Qu'il écrive les paroles des pièces qu'il chante, « La journée qui s'en vient est flambant neuve », la préférée de bien du monde, ou les scénarios des films qu'il réalise, comme « Tu dors, Nicole », il se distingue par sa douce mélancolie, son humour subtil et sa manière de célébrer notre parlure. L'œuvre de Lafleur charrie en elle un bout du Québec passé et présent. Elle parle de nous. Et les mots en sont la pierre angulaire. C'est « Loi de Cravant », la maison d'édition montréalaise fondée par Benoît Chaput, qui s'est portée acquéreuse de sa collection de poèmes. En ajoutant sa publication « Poudre à danser », au catalogue, l'homme de cinéma et de musique rejoint Camille Riedman Prudhomme, autrice du best-seller « Quand je ne dis rien, je pense encore ». Un assemblage qu'il a dégusté comme au moins 15 000 autres personnes. Ce que j'ai aimé, c'est la simplicité du dialogue que Camille entretient avec le lecteur. Tout le monde se reconnaît. C'est à la fois très simple et très précis. Elle arrive à mettre en mots une intériorité qu'on porte tous. C'est un livre qu'on a envie d'offrir en cadeau. Marie-Andrée Gilles fait aussi partie de ses poètes contemporains favoris. J'aime les gens qui s'amusent, qui s'autorise des ruptures de ton. Tous les livres de Marie-Andrée sont bons, mais je pense d'emblée à « Chauffer le dehors », qui est sûrement son plus connu. Elle est capable d'avoir de l'humour et de la gravité dans le même poème, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Toujours à la peuplade, il ne tarit pas d'éloges à l'égard de « Mouron des champs ». Pour moi, Marie-Hélène Voyer fricote avec Gaston Miron. Il y a quelque chose chez elle qui est ancré dans le territoire. Finalement, il tient à nommer « Taureau, taureau » de Jean-Christophe Réhel. Il y a quelque chose de ludique dans ce qu'il fait. et Sudbury, de Patrice Desbiens. Si l'homme rapaillé de Miron est intimidant et me semble hors de portée, Sudbury propose une trail que je peux emprunter à ma façon. Je me souviens que ça avait laissé une forte impression en moi quand je l'ai lu pour la première fois. Connaître ses classiques. Bien que Stéphane Lafleur se tienne au fait de l'actualité poétique québécoise et franco-ontarienne, des textes en prose se feraient également un chemin sur sa table de chevet. Le premier titre qui lui vient en tête lorsque je lui parle de roman, « L'écume des jours » de Boris Vian. À 17 ans, ça a changé ma vie. C'est comme si quelqu'un avait pointé une porte que je n'avais jamais vue. Tout un monde s'ouvrait à moi. Au Panthéon des géants québécois, il confie avoir découvert Anne Hébert sur le tard. Récemment, les fous de Bassan lui ont fait un fort effet. C'est comme l'une des affaires les plus percutantes que j'ai lues, et avec une langue aiguisée, virtuose. En fait, j'étais contente de ne pas l'avoir lue à l'école secondaire. Je ne pense pas que je l'aurais appréciée à sa juste valeur quand j'étais jeune. Récit cinématographique. Je ne tombe pas des nues quand il me dit que le Cartanier sait, et depuis longtemps, frayer un chemin jusqu'à son cœur. Il en va d'une constance chez les littéraires du Québec et à fort juste titre. J'ai beaucoup aimé la trilogie 1984 d'Éric Plamondon. Hongrie, Hollywood Express, Mayonnaise et Pomme S. Les coïncidences, la concordance des dates, la recherche et les liens qu'il fait dans ses trois romans m'ont impressionné. C'est comme du montage par écrit, en fait. Après tout, Stéphane réalise ses films et monte ceux des autres, dont Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Déformation professionnelle oblige, il recherche, consciemment ou non, la compagnie d'auteurs et d'autrices qui tissent leurs histoires comme des scénarios. L'un de ses plus récents achats en librairie, Une histoire silencieuse, d'Alexandra Boilard-Lefebvre, un récit familial articulé autour de la grand-mère de l'écrivaine. C'était comme du documentaire écrit. J'ai adoré ça. Dans la même veine, il a pris plaisir à lire l'essayiste pragois Patrick Wednick, sans doute le plus célèbre écrivain à écrire depuis la capitale de la Tchéquie, après Franz Kafka et Milan Kundera. Europeana, c'est un petit livre de rien. C'est juste comme une énumération de faits historiques. C'est comme du montage et il joue beaucoup sur la répétition. C'est très étrange comme livre. Histoire spatiale. Les gens qui connaissent bien le travail de Stéphane Lafleur n'en seront pas si étonnés. La science-fiction tombe dans ses goûts. Après tout, on lui doit « Viking », un long-métrage mettant en vedette Steve Laplante, Larissa Corriveau et Fabiola Nirva Aladin, qui donne à voir les coulisses et angles morts de l'exploration spatiale. J'apprécie la science-fiction lorsqu'elle apporte une question philosophique, comme c'est le cas avec Solaris de Stanislaw Lem. Le film qu'a fait Andrei Tarkovsky est super, mais le livre va plus loin, sans surprise. Quand j'aime un film qui est tiré d'un livre, J'aime comparer les deux et voir comment la transposition s'est faite. C'est aussi par le biais du cinéma, celui des frères Coen, qu'il rencontre Cormac McCarthy. L'écriture du livre « No Country for Old Men » est tellement précise. Le découpage est quasiment déjà fait. Tout est déjà dans le livre, à part la coupe de cheveux de Javier Bardem. Roman graphique. Poudre à danser. Collection de poèmes délicats et minimalistes d'un homme lisiblement amoureux n'est pas exactement la première incursion de Stéphane Lafleur dans le monde du livre. En 2013, il a fait équipe avec Cathy Maury pour la bande dessinée Mon ami Bao, un album qui a vu le jour à La Pastèque. Si je ne lui en avais pas parlé, il ne se serait pas avancé sur ce terrain-là. Non pas par regret, bien au contraire, mais par retenue, une sorte de pudeur. C'était une belle aventure, se contente-t-il de dire, avant d'enchaîner vers d'autres récits portés par des images et des phylactères. J'aime beaucoup ce que fait Catherine Osselot. Il y a une parenté entre l'écume des jours et symptômes. Elle a trouvé un angle différent pour parler des choses. Et la BD, c'est un beau véhicule pour ça. Avec son propos et son dessin, elle maîtrise quelque chose. Pourrait-il un jour être tenté de renouveler l'expérience? Celle de la BD avec Catherine Osselot? Je pense qu'elle n'a pas besoin de moi. Stéphane Lafleur semble étranger au male gaze, à cette façon que certains hommes ont de s'intéresser aux femmes, et rien que pour en faire des objets de désir. L'omniprésence d'écrivaines dans sa sélection en témoigne. Il les perçoit comme ses égales, plus que des muses. Et ça, c'est franchement plus rare qu'il n'y paraît. Surtout chez les musiciens qui ont du succès. C'était Stéphane Lafleur, Tout ce que sa musique ne dit pas. Un texte de Catherine Genet, paru le 10 juin 2025 dans Les Libraires.